Vous écoutez On lit pour vous.
Bilan de santé annuel, en avez-vous besoin? Un texte de Joanne Martin, paru le 20 novembre 2024 dans Virage. Vous vous sentez bien, mais sait-on jamais? Avec l'âge, le temps est peut-être venu de prévoir un bilan de santé annuel. Mais est-ce vraiment nécessaire? La science est assez claire à cet égard. Même lorsqu'on vieillit, pour la majorité des gens, il n'est pas utile de voir son médecin tous les ans pour s'assurer que tout va bien. Professeur adjoint de clinique au département de médecine de famille et de médecine d'urgence à l'Université de Montréal, le docteur René Whitmer confirme d'entrée de jeu que pour une personne en bonne santé, rien ne justifie de se soumettre à une batterie de tests annuellement pour vérifier au cas où. Déjà, à la fin des années 70, le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs recommandait qu'on ne parle pas de bilan annuel, mais plutôt d'examen périodique. Celui-ci devrait aussi varier d'un individu à l'autre, rapporte le docteur Whitmer. Selon son âge et certains facteurs de risque que l'on peut présenter, la fréquence à laquelle il s'avère utile de voir son médecin change. C'est le genre de choses que l'on établit avec le patient lorsqu'on le voit. Qu'en est-il des tests de dépistage? L'omnipraticien précise toutefois qu'il peut quand même être indiqué de consulter son médecin, surtout si sa dernière visite remonte à plusieurs années. En prévention, il est alors possible de procéder à des tests de dépistage. Un exemple classique est la vérification du taux de cholestérol. Elle est recommandée à partir de 40 ans chez les hommes et de 50 ans chez les femmes. Selon les guides pratiques, ce test devrait être réalisé aux 5 à 10 ans. Il y a des exceptions en fonction des antécédents de la personne ou pour d'autres raisons. Mais on est loin de devoir faire ces examens tous les ans pour la plupart des gens. Le dépistage du diabète de type 2 est un autre exemple de test effectué périodiquement, particulièrement chez les individus qui ont certains facteurs de risque. Et l'âge en fait partie. La fréquence est évaluée par le médecin suivant une grille de risque, note le docteur Whitmer. Quand le bilan cache une inquiétude. Une histoire familiale de cancer ou encore de maladies cardiovasculaires motive bien entendu des consultations plus rapprochées. Dès le moment où l'on constate des changements dans son état de santé ou que de nouveaux symptômes apparaissent, il est évidemment conseillé de prendre rendez-vous. Lorsqu'un patient vient me voir pour un bilan de santé, je lui demande pourquoi il pense qu'il en a besoin, explique le docteur Whitmer. Très souvent, il y a une autre raison de consultation du genre « j'ai perdu du poids », j'ai mal quelque part où je n'avais pas mal auparavant, j'ai une bosse qui a poussé, quelqu'un dans ma famille a été atteint d'une maladie. Ce qu'il faut, c'est de découvrir le motif réel de la visite, puis prescrire les tests utiles dans les circonstances. Les médicaments, motifs de visite. Quiconque consomme des médicaments devrait, en principe, rencontrer son médecin sur une base plus régulière qu'une personne qui n'en prend pas. D'abord, pour renouveler l'ordonnance, mais aussi pour s'assurer que la médication fonctionne bien, qu'il n'y a pas d'effets secondaires et de surveillance à faire. Un très bon exemple, ce sont les médicaments pour la pression, afin de vérifier si on est dans les cibles, émet le Dr. Whitmer. Les rendez-vous périodiques représente en outre une excellente occasion de passer en revue les médicaments que l'on prend souvent depuis plusieurs années. Une pilule prescrite il y a 30 ans peut nécessiter, en vieillissant, d'ajuster la dose et même d'en cesser l'usage. Une approche individualisée. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que l'approche doit être centrée sur ce qui peut être utile pour chaque individu, conclut l'omnipraticien. Il ne s'agit pas d'une logique économique, mais bien de proposer les tests et traitements appropriés. Même si la science va en ce sens, des manières de faire et une culture, c'est long à changer. L'idée, c'est de travailler de façon plus efficiente, d'offrir l'accès à la bonne personne au bon moment. C'était Bilan de santé annuel, en avez-vous besoin? Un texte de Joanne Martin, paru le 20 novembre 2024 dans Virage.
À table, livre. 20 suggestions de lecture de la rédaction parues sur la page de la table ronde du mois de l'Histoire des Noirs. 1. Lettre à une Noire, Françoise Ega, Luxe Éditeur. Est-ce la traite? Est-ce la traite qui recommence? Mon Dieu, dites-moi que j'exagère. Mon Dieu, dites à ces filles qui arrivent par plein bateau au Havre, à Cannes ou à Marseille, quoi wadis? Dites-leur donc cela, pour donner paix à mon âme. Dans la France des années 1960, des jeunes filles et des femmes débarquent par centaines des Antilles pour être placées comme domestiques dans les demeures de familles bourgeoises et blanches. Françoise Ega, arrivée à Marseille au milieu des années 1950 depuis la Martinique, s'emploie comme femme de ménage pour témoigner de cette exploitation crasse. Elle consigne cette expérience dans un journal de résistance quotidienne, émouvant et saisissant de réalisme, qui remonte à l'histoire impériale française et aux origines de la division sexuelle et raciale du travail. Tout à la fois chronique du refus de l'aliénation, enquête sociale, histoire intime et manifeste politique, ce texte est une contribution essentielle aux réflexions actuelles sur les rapports de classe, de genre et de race. 2. Cartographie de la porte de non-retour. Dionne Brand, Luxe Éditeur. La porte du non-retour incarne cette fissure, ce lieu d'où nos ancêtres ont quitté un monde pour un autre. Le vieux monde pour le nouveau. L'endroit où tous les noms ont été oubliés, tous les commencements redistribués. En un sens désespéré, c'est à la fois le lieu de naissance de la diaspora noire dans le Nouveau Monde et la fin des commencements que l'on peut retracer. J'ai l'intention d'explorer ce lieu de naissance. La porte du non-retour, un endroit vidé de tout commencement, en tant que lieu d'appartenance ou de désappartenance. 3. Mémoire d'un esclave. Frederick Douglass, Luxe Éditeur. Être d'exception au parcours d'une adversité extrême, noir américain le plus célèbre de son temps, Frederick Douglass nous livre ses mémoires, un texte qui s'impose comme l'un des plus beaux hymnes à la liberté qui soit. Dans cet ouvrage écrit en 1845 et dont Luxe Éditeur a offert la première traduction vers le français en 2005, Douglass fait le récit de la vie d'esclave qui fut la sienne, de sa naissance en 1818 dans une plantation du Maryland jusqu'à son évasion en 1838 qui lui permit de se réfugier dans le nord des États-Unis. S'imposant par des qualités intellectuelles et morales hors du commun, il y devint rapidement une figure éminente et respectée du mouvement pour l'abolition de l'esclavage auquel il consacra toutes ses énergies. Dans ses mémoires, Douglass y raconte sa vie d'esclave, son émancipation, physique et intellectuelle, mais aussi comment, ayant appris à lire, il s'engagea avec ses puissantes armes que sont la lecture et l'écriture sur la route de la liberté. Cette seconde édition critique en format de poche comprend en outre une introduction des traducteurs Normand Baillargeon et Chantal Santerre, une chronologie ainsi que de larges extraits du fameux discours du 4 juillet prononcé par Frederick Douglass en 1852. 4. Au sommet du Nanzerwe, il s'est assis et il a pleuré. Melchior Mbonimpa, prise de parole. Poussé par un terrible secret, le jeune Mupagasi entraîne son jeune frère Gassongati sur les chemins de l'exil, fuyant leur pays alors que celui-ci est à la veille d'être ravagé par la violence ethnique. Au camp de réfugiés situé quelque part en Afrique des Grands Lacs, chacun devra effectuer un choix déterminant. L'un embrassera la lutte armée dans un effort de reconquérir le pays d'origine, alors que l'autre, convaincu qu'il n'y a pas de retour possible, s'établira au Canada, où il poursuivra ses études et fondera une famille. Pour lui, l'exil est définitif. Mais les circonstances feront mentir les pronostics et les deux frères seront réunis, après plusieurs années, autour des négociations devant rétablir la paix dans leur pays tourmenté. Dans ce récit contemporain aux accents universels, l'amitié, l'amour et la loyauté s'avéreront les derniers remparts d'un monde où le mal et la vertu n'ont ni camp ni parti. 5. Mariage par contumance. Nouemsi Njike, prise de parole. Une simple visite à la banque peut mettre une vie sens dessus-dessous. C'est ce qu'Olivia Lavigne, jeune femme au fort caractère, apprend à ses dépens quand on lui refuse une marge de crédit parce que son mari vient de contracter un prêt. Or, elle n'est pas mariée, du moins à ce qu'elle sache. Une dépendance au porno peut elle aussi perturber une existence, comme le constate Oyono Chakunte, jeune Camerounais et époux par contumance d'Olivia. Car en s'adonnant à son activité favorite, il découvre accidentellement un secret politique et militaire américain, une mission dont même le président ignore l'existence. Et voici qu'Olivia et lui sont mêlés à cette histoire. Pourchassés à travers la ville de Windsor, empêtrés dans des complots qui les dépassent, peuvent-ils échapper aux personnes qui souhaitent les faire taire? 6. Le bonheur est un parfum sans nom. Didier Leclerc, édition David. Le bonheur est un parfum sans nom est l'histoire d'un romancier, musicien noir, qui n'a pas écrit une ligne depuis 4 ans. Séparé de sa femme depuis plusieurs années, il mène une vie recluse, entouré de ses amis qui font partie du même quintet de jazz. Un soir, il tombe amoureux, le temps d'une danse, de Miss Perfumado, une femme mystérieuse, voire énigmatique. Il la perd de vue. Son ami Winston, le saxophoniste, le console. Il va retrouver cette conquête grâce à ses amis, notamment Moussa, l'Africain qui veut qu'il écrive sa biographie. Lui n'y tient guère, mais comment dire non à un ami qui le prend pour un grand écrivain sans rien avoir lu de lui? Ce romancier cherche avant tout le bonheur. A-t-il un goût, une couleur, un parfum? Est-il heureux avec sa fille, son fils, même son ex-femme si indulgente? Il promet un roman à son éditeur pour répondre à toutes ces questions. C'est le livre que le lecteur tient entre ses mains. Renouant avec les thèmes qui lui sont chers, le statut de l'artiste, l'identité et les minorités visibles, Didier Leclerc concocte ici, avec le tempo d'une musique de jazz, une galerie de portraits drôles et émouvants. Un bonheur en soi. 7. Le jour se lèvera. Gabriel Osson, édition David. En 1964, très jeune idéaliste parti de Miami débarque à Haïti dans le but de faire tomber le régime de Papa Doc. Courageuse et généreuse, leur entreprise se terminera malheureusement de façon tragique. Vous écoutez À table, livre. 20 suggestions de lecture de la rédaction parues sur la page de la table ronde du mois de l'Histoire des Noirs. 8. Ni comme ma mère, ni comme mon père. Chronique d'une femme biraciale farouche. Magali Lefebvre-Jean, hurlante éditrice. À travers les témoignages de 4 femmes, cet ouvrage démystifie l'ambiguïté raciale et met en lumière des stratégies puissantes d'affirmation de soi. Leur expérience, racontée de manière tumultueuse et touchante, montre que l'amour de leur famille et de leurs proches ne les protège malheureusement pas du racisme. Cette exploration, basée sur une recherche sociologique, relie théorie et vécu pour illustrer les multiples rapports de pouvoir que vivent les personnes métissées au Québec. 9. Aphrodisiaque, Marilyn Chéry, hurlante éditrice. Qu'est-ce qui nous attire tant dans les cheveux de la femme noire, brune ou métissée? Aphrodisiaque est une conversation, une réflexion, une blessure et une guérison de nos racines passées sous silence. Ce one-woman show donne la parole aux cheveux afro, tantôt magiques ou bien tragiques. À travers plusieurs corps, histoires et voix, venez à la rencontre de rhizomes. 10. Gachacha, Émilie N. Desjouroux, hurlante éditrice. L'autrice, née à Sainte-Anne-de-la-Pérade, à l'époque où l'on pouvait dire le mot en N, a été élevée dans le semi-respect des traditions rwandaises transmises par ses parents. En tissant serré des pans de vie asymétriques pour que leur message ne se perde pas entre les mailles, ses écrits poétiques remettent en question certains préceptes ancestraux et dénoncent, du même souffle, les injustices fortuites ou préméditées. Ce recueil parle du génocide, du viol, de la famille, de l'angoisse et du sentiment d'être étrangère partout. La préface du recueil est signée par Xavier Dolan. 11. Le grain de sable, Olivier Lejeune, premier esclave au Canada. Webster Valmont, édition Septentrion. Originaire de l'île de Madagascar, Olivier Lejeune arrive dans la ville de Québec en 1629 en tant qu'esclave. Il avait 10 ans. Au-delà de son statut d'esclave, il est la première personne d'origine africaine à habiter de manière permanente au Canada. Ce livre, inspiré de ce qu'il a réellement vécu, suit le parcours d'Olivier Lejeune, de sa capture à Madagascar jusqu'à son arrivée dans la ville de Québec. On apprend comment il a pu s'adapter à sa nouvelle réalité dans les débuts de la Nouvelle-France. 12. Théorie des Caraïbes, poétique du déracinement. Joël Desrosiers, Nota Bene. Nouvelle édition de cet essai marquant de la décennie, selon Joseph Thévenet, paru à l'origine en 1996, augmenté de 2 chapitres, pour une littérature post-plantationnaire. Et Tombeau, ainsi que d'une préface. À sa parution, Théorie Caraïbes s'était mérité le prix de la Société des écrivains canadiens et le prix de la Renaissance française. Théorie, du grec théoria, action de voyager et mouvement des idées sont à l'origine un seul mot dans la langue. Questionnant le corpus des écrivains de la migration caraïbe en France et en Amérique du Nord, cette suite d'essais propose une intelligence de l'appropriation de l'espace continental par les écrivains originaires de l'archipel. Qu'est-ce que la littérature post-nationale? Que devient la notion de territoire? D'où vient le désir de l'hiver? Joël Desrosiers part sur les traces des écrivains qui participent au processus périlleux et interminable de la décolonisation culturelle. J'appelle Théorie Caraïbe les groupes d'hommes en larmes, nègres marrons affolés d'amour qui, d'une rive à l'autre, jettent leur langue nationale dans l'eau salée, dans la bouche ouverte, sans fond, de l'abysse. « Voilà notre patrie », disent-ils, dans le patois des colonies. 13. Des femmes savantes, Chloé Savoie-Bernard, Nota Bene. Ces femmes ont bien appris la leçon. Les règles, elles les connaissent. Est-ce donc leur faute si, au dernier moment, ça coince? La ligne de Cole, les vœux du nouvel an, un coiffeur qui vous prend pour Courtney Love, une fin de soirée sans condom, ce plan si simple pour faire renvoyer la vendeuse détestée de toutes. Prises entre désir de plaire et souci d'authenticité, les femmes et les filles mises en scène par Chloé Savoie-Bernard se délectent de leur solitude jusqu'à l'écœurement. Quelle part de soi faut-il enjamber pour atteindre l'autre? Certaines arriveront à faire le grand écart, d'autres non. Habitées par les sons et les langues de Montréal, par la musique pop et la poésie, ces nouvelles sont portées par un souffle aussi lyrique qu'impur. La contamination est amorcée. 14. La couleur de l'adoption. Manuel Alix Surprenant et Renaud Vinet-Houle, Nota Bene. Ce livre important et émouvant donne la voix à 38 personnes adoptées de différents âges et d'origines diverses qui résident sur l'ensemble du territoire québécois. Chacun exprime à sa façon des sentiments similaires, complémentaires ou même opposés concernant leur expérience de l'adoption. Elles trouvent ici une occasion de s'approprier leur narration et d'illustrer à quel point elles changent le visage de l'identité québécoise contemporaine. 15. Le Dantou, art martial de tradition africaine. Jean Rousseau-Guillaume, livre maître gardien. Le contenu de mon ouvrage relate que les danses guerrières des traditions africaines, afro-genèses, ont joué un rôle primordial dans la culture du sport de combat en Afrique-mer, au Brésil et dans les Caraïbes. Ces danses guerrières actualisent jusqu'à présent l'héritage sacré de l'enseignement d'autodéfense ancestrale à travers le Dantou. L'originalité de Dantou, art martial, consistant en une nette démarcation entre sa codification de langage et celle des autres arts martiaux. Son contenu reflète et résume très bien sa définition de l'art martial traditionnel. Enfin, le Dantou poursuit la vision de l'art Montou, de l'art Ogou et de l'art Azuli Dantou, en poursuivant leurs enseignements de la maîtrise du mental et de l'auto-amélioration de soi pour perpétuer les bases des arts martiaux africains, afro-genèse, afro-descendant. Que vous soyez expert ou profane, vous trouverez dans le Dantou l'essentiel d'un art guerrier traditionnel vaudou, une manière de vivre en harmonie avec le monde visible et invisible qui vous entoure. Vous écoutez À table, livre, 20 suggestions de lecture de la rédaction parues sur la page de la table ronde du mois de l'Histoire des Noirs. 16. À la découverte du Canada, l'héritage noir. Robert Livesay et A.J. Smith, édition des Plaines. On estime que plus de 60 millions d'Africains ont été arrachés à leur famille, leur culture, leur religion pour devenir des esclaves. Victimes de préjugés et de violences, l'histoire des Noirs se résume en un dur combat mené avec force, détermination et courage. Partez à la rencontre de sportifs de renom, de brillants inventeurs, de journalistes talentueux et bien d'autres personnalités fortes. Bien trop souvent oubliés, découvrez ces personnages fascinants et les événements marquants de cette période et comment ils ont contribué à façonner l'histoire et la culture du Canada. 17. De petite à grande, Rosa Parks, Lisbeth Kaiser et Martha Antello, La courte échelle. Petite, Rosa Parks était déjà sensible aux injustices dont les Noirs étaient victimes dans le sud des États-Unis. Alors que les Blancs prenaient l'autobus pour aller à leur grande école, elle devait marcher des kilomètres pour se rendre à la minuscule sienne. Cette femme calme mais déterminée s'est rendue célèbre en refusant de laisser son siège à un homme blanc dans l'autobus, comme la loi de l'époque l'exigeait. Son geste a servi de déclencheur à un mouvement de grande ampleur, le boycott des bus de Montgomery. Rosa Parks est une figure importante de la lutte contre la ségrégation raciale dans les lieux publics. Porté par des illustrations colorées et vivantes, l'album « De petite à grande », Rosa Parks, permet d'aborder des thèmes importants et nécessaires comme l'égalité des droits et le respect de soi. 18. Dans l'ombre du soleil, réflexion sur la race et les récits. Essai Éduguian, édition boréale. Jusqu'au XXe siècle, les Noirs sont rarement représentés dans la littérature et l'art des nations occidentales, et quand ils le sont, ils n'apparaissent presque jamais comme des êtres humains à part entière. Mais que se passe-t-il lorsque nous décidons d'accorder une attention centrale à ces hommes et ces femmes, jusqu'alors relégués dans les marges de nos récits et de nos représentations? Dans quelle mesure ce renversement des perspectives vient-il remettre en question et complexifier notre compréhension de l'histoire ainsi que de notre identité individuelle et collective? À mi-chemin entre l'essai littéraire, le récit de vie et la chronique historique, Dans l'ombre du soleil propose une méditation nuancée et perspicace sur l'identité, l'art et l'appartenance, ainsi que sur le refuge et le réconfort que nous offrent les histoires que nous inventons et transmettons au fil des générations. S'appuyant sur l'analyse de nombreuses œuvres picturales, littéraires et cinématographiques, la romancière Issy Edugyan met en lumière son propre parcours de Canadienne née à Calgary, de parents ghanéens et celui de personnes noires longtemps restées dans l'ombre. Au passage, elle se prononce sur les nombreux débats artistiques et sociétaux qui ont marqué l'actualité ces dernières années dans la foulée de mouvements comme Black Lives Matter. Un livre essentiel qui fait la démonstration que ce que nous ignorons en dit autant sur nous-mêmes que ce que nous célébrons. 19. Le prince africain, le traducteur et le nazi. Didier Leclerc, édition David. L'incipit du roman nous situe à la gare du Nord, en 1941, alors que le prince Antonio, après plusieurs années passées à Paris où il se livre au trafic de diamants, prend le train pour Lisbonne et fuit l'occupation. Jean de Dieu reste derrière pour liquider les affaires et organiser le départ de la compagne du prince, Sarah, une Polonaise d'origine juive, et de leur enfant. Les activités du prince ont attiré l'attention du major Baumeister, un tortionnaire de la Gestapo qui cherche à s'approprier les diamants et fuir en Amérique du Sud. Dès lors s'organise une captivante chasse à l'homme dans Paris, un duel entre le nazi et le prince par personne interposée, le traducteur Jean de Dieu. 20. Histoire d'immigration. Collectif. Édition David. Le Canada accueille chaque année des milliers d'immigrants en provenance des quatre coins du globe. Qu'ils aient quitté leur terre d'origine pour fuir l'oppression, la tyrannie ou la guerre, dans l'espoir d'améliorer une qualité de vie ou simplement par amour, tous ont dû faire le choix déchirant de se déraciner. Du désir d'émigrer à l'adaptation dans le pays d'accueil, en passant par la préparation au départ, les chocs culturels, les rencontres inoubliables, la quête identitaire et les procédures d'immigration, voici quelques thèmes abordés dans ce recueil qui regroupe 40 parcours uniques de personnes qui ont voulu raconter leur histoire. Le concours d'écriture que les éditions David lançaient en janvier 2021, Histoire d'immigration, invitait les nouveaux arrivants, les personnes issues de l'immigration, de même que les gens de la communauté d'accueil, à partager leur expérience liée à l'immigration. C'était « À table, livre, 20 suggestions de lecture de la rédaction » paru sur la page de la Table ronde du mois de l'Histoire des Noirs.